Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Joséphine Jones Mundimana.
Vous suivez la radio Nzamba Agathe Kakawe. Merci pour votre fidélité. C'est le moment du journal en français. Donc voici d'abord les principaux titres. Ça fait exactement une année, jour pour jour, que la journaliste Floriane Ilangavier est en tôle. Les professionnels des médias, les organisations de défense des droits de l'homme continuent à dire qu'elle est injustement incarcérée et qu'elle devrait être libérée sans condition. Deux personnes dernièrement relâchées par la justice à Bururi sont portées disparues depuis le 23 mai de cette année. Elles avaient été accusées de criminalité. C'est au moment où ce 30 août, le monde entier commémore la journée internationale des personnes disparues, l'occasion pour la campagne Ndondeza du Forum pour la conscience et le développement Focodé de faire un constat amer, c'est que le pouvoir de Gitega ne fait pas d'effort pour endiguer le fléau qui est une réalité au Burundi. Voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous commençons par le domaine de la justice et médias. Si tous les journalistes doivent être condamnés pour avoir tendu leur micro aux opposants, il n'y aurait plus de métier de journalisme ni au Burundi ni ailleurs. C'est ce qu'indique Antoine Kaburahe, le directeur du groupe de presse Iwachu. Il le dit au moment où la journaliste Floriane Ilangavier totalise une année en prison. Pour Antoine Kaburahe, cette journaliste n'a rien fait pour mériter la peine de 10 ans de prison. Je vous prie de l'écouter.
Aujourd'hui, c'est vraiment un jour triste pour les journalistes burundais, spécialement, mais aussi pour les journalistes africains, voire les journalistes du monde entier. Une collègue vient de boucler une année en prison, pour rien, gratuitement. Floriane Ilangavier, c'est une jeune mère de famille, mère de deux enfants de 10 et 8 ans, des enfants donc qui ont encore besoin de leur mère, et surtout qui est incarcérée pour rien. Moi, j'ai lu l'acte d'accusation, mais c'est vide. On accuse Floriane Ilangavier d'avoir animé une émission au cours de laquelle deux de ses invités ont émis des critiques envers la gouvernance au Burundi, la corruption, la violation des droits de l'homme. Mais franchement, ces critiques, on les entend même de la bouche du chef de l'État, qui dénonce la corruption, qui dénonce la magistrature, qui dénonce la mauvaise gouvernance. Et voilà, c'est un journaliste qui paye aujourd'hui un discours que l'on entend tous les jours. Et puis, les journalistes, nous sommes là aussi pour dire des choses qui ne marchaient pas. Donc, si tous les journalistes devaient être condamnés pour avoir donné leur micro à ce que l'on appelle opposants, il n'y aurait plus de journalisme, ni au Burundi, ni ailleurs. C'est vraiment une honte aujourd'hui que cette journaliste soit emprisonnée. Et vous savez, elle a été condamnée à une lourde peine de 10 ans de prison. C'est énorme, c'est fou. J'ose espérer donc que finalement la raison va primer et que cette jeune mère de famille, que notre collègue va retrouver sa liberté. Mais aujourd'hui, comme je le disais, c'est un jour de tristesse pour les journalistes burundais, mais aussi pour les journalistes du monde entier.
Évariste Ndayishimiye devrait appeler à la libération immédiate et sans condition de Floriane Ilangavier et empêcher son gouvernement de manipuler le système judiciaire s'il croit à ses promesses. Cela figure dans un communiqué conjoint de l'Initiative pour les droits humains au Burundi, Amnesty International, Human Rights Watch et le Comité pour la protection des journalistes. Un communiqué sorti ce mercredi. Écoutez, Karina Tarsakian, elle est présidente de l'Initiative pour les droits humains au Burundi, IDHB.
Floriane Ilangavier vient de passer une année en prison simplement pour avoir exercé son métier de journaliste et pour avoir critiqué le gouvernement burundais. C'est une longue année, mais qui ne représente qu'un dixième de la peine à laquelle elle a été condamnée. L'Initiative pour les droits humains au Burundi, Amnesty International, Human Rights Watch et le Comité pour la protection des journalistes ont publié aujourd'hui un communiqué conjoint pour rappeler ce cas d'injustice flagrante et pour attirer l'attention aux restrictions sévères à la liberté d'expression qui persistent au Burundi. Floriane a été condamnée à la suite d'un procès inéquitable, entaché d'irrégularités et sans que le procureur ne fournisse des preuves crédibles de sa culpabilité. Les conditions d'emprisonnement de Floriane ont aggravé sa souffrance. Elle est emprisonnée à Muyinga, loin de sa famille, et son état de santé est préoccupant car elle a difficilement accès aux soins dont elle a besoin. Ce cas illustre l'hypocrisie des discours du président Évariste Ndayishimiye. D'un côté, il vante ses efforts pour restaurer l'indépendance de la justice et promet de protéger les droits humains. Mais en même temps, il garde le silence sur cet exemple emblématique d'injustice. S'il veut que le monde croie à ses promesses de réforme, il devrait appeler à la libération immédiate et sans condition de Floriane Iringabillé et empêcher son gouvernement de manipuler le système judiciaire pour punir ses détracteurs.
Inzamba. Dans la suite de ce journal, le monde entier célèbre ce 30 août la journée dédiée aux victimes des disparitions forcées. Le FOCODE, le Forum pour la conscience et le développement, constate que le phénomène des disparitions forcées reste l'une des formes des crimes commis régulièrement au Burundi par les agents de l'État avec la complicité des autorités du pays. Pacifique Nenina Azoué, président de la campagne Ndondeza, affilié à ce forum, rappelle des cas récents de disparitions forcées qui n'ont jamais été dénoncées par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Pacifique Nenina Azoué déplore un manque de volonté du pouvoir de Gitega pour décourager les auteurs de ce crime odieux. On l'écoute.
Les disparitions forcées continuent et nous avons donné quelques exemples des cas de disparitions forcées recensés en 2023. C'est par exemple le cas de Frodoir Ndayikenguru qui est enlevé le 16 février 2023 à Kamenge par des agents du Service national de renseignement. Le cas de Viateur Nzigo, militant du parti CNL, enlevé le 29 mars 2023 en commune Gasogwe par des responsables du Service national de renseignement et de la jeunesse Imbonerakure en province Muyinga. C'est le cas de Focas Niyubunu, responsable local du parti CNL en commune Bururi, qui a été enlevé le 23 mai 2023 au chef-lieu de la province Bururi. Le même jour, toujours à Bururi, Jean-Claude Ndayikenguru Kiye, percepteur de la taxe communale, a été enlevé en répondant à un appel d'un responsable communal connu aussi comme un informateur des services secrets. Il y a un cas très récent en province de Kayanza, Désiré Manirambona, ancien agent du service national de renseignement, d'ailleurs utilisé dans beaucoup de crimes, dont des cas d'assassinat et d'enlèvement des citoyens, lui aussi était enlevé le 31 juillet 2023 et il reste introuvable jusqu'ici. Notre déclaration rappelle que l'impunité des auteurs des disparitions forcées reste la règle au Burundi, en dépit des promesses du président Évariste Ndayishimiye de châtier les auteurs de ces enlèvements. Nous avons rappelé la lettre que nous avons envoyée au président Ndayishimiye en août 2022, une lettre qui comprenait notamment une liste de 80 personnes enlevées par les services de l'État sous le régime Ndayishimiye, et pourtant le président n'a jamais répondu à cette lettre. Il n'a engagé aucune enquête sur ces disparitions forcées. Nous condamnons le fonctionnement de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, qui depuis 4 ans, sous la direction de Sixte Vigny Nimuraba, n'a rapporté aucun cas de disparition forcée dans ses rapports depuis 2019. Nous avons enfin appelé la communauté internationale, les partenaires du Burundi, à rester vigilants sur ce phénomène des disparitions forcées au Burundi.
Ce crime non amnistiable de disparition forcée continue d'être commis dans le pays parce qu'il n'y a jamais eu de poursuite contre les auteurs au niveau des juridictions locales. C'est aussi le constat du collectif des avocats pour la défense des victimes de crimes de droit international commis au Burundi, CAVIB. Dans une déclaration relative à la journée dédiée aux personnes disparues, Maître Yves Lunyago, chargé des relations publiques au sein du CAVIB, regrette que la plupart des auteurs présumés de nombreux cas font partie des organes officiels du gouvernement burundais. Il demande aux Burundais, dans l'ensemble, de condamner et refuser ce crime et aux familles des victimes de ne pas se décourager, car les dossiers des leurs sont devant les juridictions internationales. Suivez.
À l'état actuel des choses, le phénomène des disparitions forcées demeure au Burundi. Certes, dans le passé, avec l'avènement surtout au pouvoir du président actuel Evariste Ndayishimiye, il y a eu une période d'accalmie où on a observé une réelle diminution des cas de personnes reportées disparues. Mais avec l'année 2021, il y a eu une recrudescence encore une fois de ces cas. Et la raison, elle est simple, c'est parce que, comme beaucoup d'experts le disent, donc les gens qui ont travaillé sur ces phénomènes de disparition forcée au niveau international, ils ont trouvé qu'en fait le crime de disparition forcée, c'est vraiment le crime parfait hein, pour ceux qui le commettent. Parfait pourquoi ? Parce que, en fait, vous ne trouvez ni victime et vous ne trouvez ni l'auteur. Donc, l'auteur, il est là, il sait ce qu'il a fait, mais il se dit qu'en fait, personne ne sait autour de lui. C'est pourquoi rien ne l'empêche, en fait, de recommencer. Et c'est là, pour nous, le grand danger pour la communauté, c'est là où se trouve le problème majeur. C'est parce qu'il y a personne qui est puni pour ça. Même quand les gens disent la personne a été enlevée, arrêtée par tel ou tel autre, il n'y a jamais de poursuite. Même les dossiers qui ont été portés devant le parquet, au niveau même du Burundi, personne n'a osé ouvrir ces dossiers, pour des raisons peut-être qu'ils connaissent eux-mêmes. Et tant que les autorités burundaises ne vont pas oser se faire violence et poursuivre les auteurs de ces crimes, personne ne pourra se sentir à l'abri. C'est un combat que nous menons comme Burundais, épris de paix, et tout ça. Et c'est là où réside essentiellement notre espoir qu'un jour, la justice finira par triompher. Que les auteurs de ces crimes, même si pas tous évidemment, certains, surtout les commanditaires, les responsables, pourront avoir à en répondre un jour. C'est un combat difficile, acharné, qui prend du temps, mais nous gardons espoir. Beaucoup connaissent les cas de Pinochet en Argentine, par exemple, les cas de Hussein Abré au Tchad. Ce sont des cas qui sont illustratifs de la manière dont les procès peuvent être longs, de la manière dont toutes ces procédures-là judiciaires peuvent prendre beaucoup de temps, beaucoup d'années même, mais aussi qui sont source d'inspiration pour ceux dont les leurs ont été enlevés et portés disparus.
Illustration de l'existence du phénomène des disparitions forcées au Burundi de personnes parmi les 8 qui avaient été blanchies par la justice et qui étaient accusées de tuer des gens à la machette en commune de Bururi sont portées disparues depuis le 23 mai de cette année. Leurs familles s'inquiètent pour leur sécurité. Les détails avec Olivia Gakima.
Selon les informations recueillies au sein des proches de ces deux victimes, les deux personnes qui sont portées disparues sont connues sous les noms de Jean-Claude Ndaikengurukiye, natif de la colline Mudaha-Ndwa, en commune et province Bururi. Il travaillait comme percepteur de taxes et impôts en commune Bururi. L'autre est connu sous le prénom de Balthazar, c'est un enseignant au lycée de Kilemba. Les deux, il n'y a pas longtemps, avaient été blanchis par la justice et libérés après leur détention car ils étaient accusés à tort, selon la même justice, par un certain James, comme étant parmi les criminels qui blessaient et tuaient des gens à la machette en commune Bururi. James, quand il est arrivé devant les juges, a plaidé non coupable pour les deux hommes, affirmant qu'il les avait cités sous pression. Selon nos sources, tout a commencé dans la matinée du 23 mai 2023, quand Jean-Claude a reçu un appel téléphonique de la part d'Égide Tuisenge, le comptable communal de Bururi, lui demandant de se présenter au service, soi-disant pour faire le contrôle financier. Ce dernier, selon les mêmes sources, s'est présenté au service, mais le comptable lui a dit de revenir le lendemain. Il s'est exécuté et s'est encore une fois présenté au service, mais n'a pas été reçu par le comptable Égide Tuisenge. Ce n'est que plus tard, aux environs de 16 heures, que le comptable a encore une fois appelé Jean-Claude pour lui demander de revenir au travail, lui promettant cette fois-ci de lui payer la moto et les frais d'hébergement dans un hôtel, car il se faisait tard. Arrivé à Bururi, Jean-Claude a été embarqué dans un véhicule non identifié vers une destination jusqu'à maintenant inconnue. C'est le même calvaire qu'a connu Balthazar, l'enseignant au lycée Kilemba, qui jusqu'à maintenant est porté disparu. Les proches sont dans la désolation et s'inquiètent du sort des leurs. Ils demandent à l'autorité judiciaire et sécuritaire de leur dire où se trouvent les leurs. Suite à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore eu la version du commissaire de police dans la province de Bururi.
Et pour clore ce journal, 5 jours viennent de passer sans que le centre de santé de Wigera, de la commune de Usiga, dans la province de Ngozi, ne reçoive les patients. Et pour cause, le personnel qui observe un mouvement de grève pour des raisons jusqu'ici inconnues. Conséquence, les malades sont obligés de parcourir de longues distances pour aller vers d'autres structures de soins.
Les habitants de cette commune demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème. Les détails avec Pierre Garungu.
Les patients qui fréquentent le centre de santé de Liguela, se trouvant en commune Bosiga dans la province de Ngozi, se plaignent qu'ils ne reçoivent pas de soins lorsqu'ils se rendent à ce centre de santé ces jours-ci. Certains disent que cette grève des infirmiers est due à une mésentente liée au partage de la farine utilisée pour préparer la bouillie des enfants mal nourris. Aujourd'hui, ils se rendent dans des centres de santé éloignés se trouvant dans la région.
Cela fait plusieurs jours que ces infirmiers ne travaillent pas, mais hier, le titulaire ne s'était pas présenté, il est resté uniquement un stagiaire. Il est venu une personne qui voulait accoucher, mais personne ne l'a accueilli. C'est ainsi que dans la matinée, le chef de zone en compagnie de la police est venu s'enquérir de la situation. Je venais de croiser en chemin six policiers qui se rendent à ce centre de santé. Il paraît que c'est un conflit lié au partage de la farine qui sert à préparer de la bouillie chez les enfants souffrant de la malnutrition.
Les habitants vivant dans cette commune demandent aux personnes habilitées de prendre en main cette question.
Pour le moment, les patients seront au centre de santé de Kinyami, mais la conséquence est que parfois les infirmiers du centre de santé de Bigela les injurient une fois qu'ils constatent que le patient a effectué une consultation ailleurs. Nous demandons que les personnes habilitées résolvent cette question afin d'éviter que cette situation ne dégénère.
La rédaction de la radio Ndamba, Agathe Kakawi, a contacté par téléphone le directeur du bureau provincial de santé à Ngozi, Jean-Bosco Ndayishimiye, pour qu'il nous explique l'origine de cette grève et ce qu'il propose comme solution, mais il n'a pas décroché son téléphone.
Merci Pierre Gaungo pour toutes ces précisions et c'est par là que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi, excellente soirée à tous, au revoir et à la prochaine.